Chers frères et sœurs, nous avons entendu depuis le début de cette semaine la lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Corinthe était une ville païenne que Paul a pu convertir en apportant la bonne nouvelle du salut. Et les Corinthiens étaient devenus très chrétiens, très croyants. Ils commençaient à parler en langue, ils commençaient à faire beaucoup de choses vraiment grandioses et même parfois des prodiges au milieu des chrétiens. Et voilà qu'avec le temps, la corruption a gagné la communauté chrétienne. Et ils ont commencé à laisser entrer des choses du monde, l'impudicité, la corruption de la chair. Alors donc, Paul s'en prend à ces gens-là. Quand il donne son message, comprenons bien qu'il s'adresse à une communauté précise à cause de leurs problèmes et de leurs réalités. Alors c'est pour cela, et la plupart des problèmes que Corinthe avait connus au début, après leur conversion, tournaient autour de femmes. Le fils pouvait aller coucher avec la deuxième femme de son père et tout le reste, et c'était devenu comme ça. Voilà pourquoi Paul donne ce message qui concerne bien sûr tout le monde. D'abord, premièrement, il dit, si vous êtes dans l'état de célibat, il vaut mieux que vous demeurez comme cela si vous l'avez choisi. Il dit, mais cela ne se pose pas à ceux qui se marient, parce que c'est une bonne chose, ce n'est pas un péché de se marier. Ce n'est pas un péché qu'une jeune fille aspire au mariage, ce n'est pas un péché qu'un jeune garçon aspire au mariage, mais quand ils sont dans le mariage, qu'ils honorent le mariage. Que ceux qui sont dans le célibat, qu'ils honorent leur choix, le célibat. Paul donne ce message aux Corinthiens à cause justement de tous les excès de contre-valeurs qui commençaient évidemment à pénétrer à l'intérieur de la communauté chrétienne. Et ce conseil, bien sûr, nous concerne tous aujourd'hui. Le message de l'Évangile, le message de Jésus, c'est vraiment un appel au bonheur. Nous le voyons. Premièrement, Luc présente le bonheur d'abord comme une aspiration, c'est-à-dire un désir de Dieu. Dieu nous souhaite le bonheur. Et deuxièmement, comme une attitude du cœur, c'est-à-dire un choix que nous devons faire. Bien sûr que Dieu désire que nous soyons heureux. Bien sûr qu'il nous souhaite le bonheur. Mais nous, nous devons faire le choix du bonheur jour après jour. Nous devons adopter des attitudes qui vraiment fassent advenir ce bonheur dans notre vie. Parce que le bonheur concerne d'abord le cœur, les dispositions du cœur. C'est vraiment cela que l'apôtre, comment l'évangélique Luc essaye un peu de nous amener au niveau de ce cœur. Voilà pourquoi, quand il dit « heureux le pauvre », remarquez bien, il n'a pas dit « heureuse la pauvreté », ce n'est pas ça qu'il dit. Le pauvre, c'est quelqu'un qui est d'abord dans cette attitude. C'est une attitude, être pauvre, c'est une attitude. La pauvreté, c'est une réalité. C'est une autre chose. Être pauvre, c'est une attitude. C'est pour cela que même des gens qui ont vécu dans des richesses ont tout abandonné pour choisir d'être pauvre, une attitude. Saint François d'Assise, nous connaissons beaucoup de saintes qui étaient des filles de rois, qui étaient de la descendance royale, qui ont tout abandonné. Ils sont allés dans d'autres pays pour aller fonder des congrégations dans la pauvreté, dont le signe était la pauvreté, alors qu'eux, ils venaient de familles très riches. Donc, être pauvre, c'est une attitude. La pauvreté, c'est une réalité. Le Seigneur dit « heureux le pauvre ». En d'autres termes, ceux qui adoptent cette attitude-là, parce que en ce moment-là, quelqu'un qui est dans une attitude, dans une réalité de pauvreté, mais surtout dans une attitude de pauvre, il désire être riche, il désire être comblé. Comme on le dit souvent, un pot qui est déjà rempli n'a plus besoin d'être rempli. C'est celui qui est vide qui a besoin d'être rempli. Quand quelqu'un a une attitude de pauvreté qu'il a choisie, alors il désire la richesse et alors il est prêt à accueillir la richesse. Il est prêt à accueillir la richesse. Celui qui est déjà riche, il ne recherche plus la richesse. Il s'enferme dans sa richesse et s'enorgueille dans sa richesse. Voilà pourquoi la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à cela, avoir faim. Donc cette attitude-là de faire l'expérience de la faim. C'est pour cela que vous voyez que pendant le temps de carême, parfois l'Église nous propose de faire l'espérance de la faim. Un jour de la semaine, vendredi saint, ou le vendredi des carêmes, où on nous propose vraiment de ne pas manger, de peur, pénitence, mais par rapport au repas, pour faire l'expérience de la faim. Quand nous avons fait l'expérience de la faim, d'abord nous comprenons ceux qui vivent dans la faim comme une réalité, mais en même temps, on sait, nous sommes capables de nous détacher de la nourriture, parce que l'homme ne vit pas seulement de cette nourriture, mais aussi du pain qui vient du ciel. Et alors, quand nous faisons l'expérience de pleurs, nous comprenons la souffrance des gens qui pleurent tout le temps. La souffrance des gens qui pleurent tout le temps. Dans l'Ancien Testament de Moab, Dieu dit, je te plains parce que ton vin n'a jamais changé de goût ni d'odeur. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été secoué par la souffrance. Tu ne connais pas la souffrance dans ton cœur. Tu ne peux pas comprendre les gens qui souffrent. Tu ne peux pas compatir avec les gens qui souffrent. Quand nous n'avons jamais fait l'expérience de la souffrance, c'est difficile de comprendre les gens qui souffrent. Voilà pourquoi parfois il dit ça, heureux ceux qui pleurent, qui ont déjà fait l'expérience qui fait pleurer le cœur, ceux-là deviennent sensibles aux autres. Alors ceux-là, ils apportent le rire, ils apportent la joie, ils apportent le réconfort à ceux qui souffrent, parce que eux-mêmes d'abord, dans leur souffrance, ils ont désiré le réconfort, ils ont désiré la joie. Voilà un peu le sens du message que Jésus nous donne aujourd'hui. Nous allons prier les uns pour les autres, pour demander cette grâce du bonheur que Dieu nous souhaite. Que notre pauvreté ne nous maintienne, notre état de pauvre ne nous maintienne pas dans la pauvreté, mais plutôt dans le désir de rechercher Dieu qui devient